Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 105e épisode de Torréfaction. Torréfaction, votre rendez-vous hebdomadaire avec notre sélection de l'actu, une sélection de l'actu que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Bonjour Fasquiel.
Est-ce que ça va bien?
Écoute, ça va pas mal. Si la technique arrêtait d'exploser de partout autour de moi, ça serait encore mieux.
J'ai cru comprendre que c'était un peu la galère en ce moment.
Mais je comprends pas, on s'était mis d'accord il y a très longtemps que c'était toi, tu vois.
C'est ça.
Et là, en ce moment, mais mon bad karma, mais dégueule de partout, c'est un truc de fou. J'ai mon NAS qui refait des trucs chelous, mon Mac Mini que j'ai acheté cet été, donc ça, je vous en avais déjà parlé, qui s'est suicidé du SSD, donc faut changer la carte mère, mais ça, c'est fait. Voilà, le nouveau, maintenant, il est backupé, les gars. Je vous confirme que c'est le premier truc que j'ai fait. et j'ai que, donc, j'aide des gens, c'est pas vrai, c'est pas mon vrai travail, mais j'aide des gens à installer dans des toutes petites boîtes, leur matos, etc. Et en ce moment, ils ont que des merdes, mais que des trucs de ouf. Donc, j'aimerais que ça s'arrête, parce que j'en ai marre.
Je suis étonné.
Alors, bon, c'est rigolo, mais je préfère m'installer devant un micro et vous parler de trucs rigolos. C'est plus, ça me détend quand même, c'est mieux.
Eh ben, faisons ça, justement, et on va attaquer tout de suite avec le gaming et le retour des PUBG News, mais plus particulièrement une autre version.
Parce que les PUBG News, ce qui est bien, c'est que tu peux les faire à l'infini maintenant, grâce à Tencent, qui nous fait donc, qui est un. Ok, c'est pas l'éditeur officiel, c'est pas le grand patron du PUBG normal sur PC, mais ils ont quand même une part de la boîte. Ils ont PUBG Mobile qui leur rapporte plein de sous, et depuis cet été, ils ont PUBG Lite, dont j'ai fait une news sur Geekzone cette semaine. Vous avez le petit lien dans le billet qui accompagne le podcast, on devrait faire une macro pour ce truc-là.
C'est ça.
Pour justement vous parler de ce truc. C'est un PUBG Lite, donc, qui a été développé par Lightspeed et Quantum. C'est un nom qui va vous parler si vous jouez à la version mobile, car évidemment, les mecs, c'est pas des tarés, ils ont repris les assets. Enfin, on va dire, ils ont pris une grande partie de ce qu'ils avaient fait sur version mobile et ils l'ont remasterisé avec les outils PC pour faire une version qui tourne avec des configurations en carton. Alors, apparemment, j'ai offusqué quelqu'un sur Twitter qui
j'ai vu,
dit,
ouais.
Mais par quoi? Mais chaque jeu devrait proposer une configuration mini comme celle-ci. Bah, ouais, mais on se ferait chier quand même. Enfin, je veux dire, même sur
c'est
téléphone.
Du boulot, l'air de rien.
C'est pourri. Un, c'est du boulot, puis le nivellement par le bas, ça va bien deux minutes. Hein. Donc là, le but du jeu, c'était effectivement, ils se sont dit, bon, PUBG, le normal, il est très très gourmand, même en low, et c'est un problème en fait pour aller attaquer le marché d'Asie du Sud-Est. Et leur moteur scale pas aussi bien que même un Fortnite, tu vois, c'est la même version que tu as sur tablette et la même version que tu as, enfin la même version, on se comprend, hein, mais la même base, même moteur, le même compte. Donc tout transfert d'une version à l'autre à chaque fois que tu changes de plateforme, ce qui est très fort, bien joué, Epic. Donc Tencent, ils ont fait tout l'inverse, donc PUBG Lite, c'est encore une autre version. Alors ce qui est rigolo, c'est que tu te connectes avec le compte qui te permet de te connecter sur leur forum, etc. quand tu t'étais inscrit sur leur site web avec le PUBG normal. Mais en revanche, il n'y a rien qui passe d'une version à l'autre. C'est une nouvelle version complètement séparée. Le gros avantage, c'est que évidemment, elle fonctionne donc sur des brouettes avec 4Go de RAM. Le jeu tient en 2Go, je crois, cette fois. Et avec configuration graphique minimale, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, c'est du Intel HD Graphics 4000, donc
ah oui,
non, une vraie brouette, hein, c'est avec le pneu crevé à l'avant et tout, il y a qu'à pneu sur une brouette, mais on se comprend. Du coup, c'est vraiment une version qui est faite pour tourner sur des vieux PC planqués en Asie du Sud-Est, en se disant, bon voilà, ces gens n'ont pas d'argent, mais allons leur vendre des Battle Pass, tu vois. Vive le free-to-play, voilà. Donc ouais, c'est ce que j'ai dit dans ma news, je trouve ça un petit peu, bon, on peut être cynique et se foutre un peu de leur gueule en disant, vraiment les gars, rien ne vous arrête. Mais bon, je pense que ça leur a pas pris non plus 1000 ans pour faire cette version. Et comme j'avais pas envie d'en parler pendant 150 ans dans le podcast, j'ai fait une vidéo pour une fois, alors qui est pas montée, hein, c'est juste moi qui joue sur Twitch, et j'ai extrait un highlight qui est dans la news que j'ai mis sur le site. Et du coup, ça vous permettra de voir la tronche que ça beaucoup plus facilement. La gueule du jeu, vous ne serez pas surpris si vous avez joué à la version mobile. Il manque des murs dans les maisons, il y a moins de meubles, mais plus que sur la version mobile. Tu vois, ils ont essayé de faire un entre-deux. Les textures sont très moches, mais encore une fois, voilà. ça, le jeu, 4 gigas sur le disque et 4 gigas de RAM, on va pas lui demander de faire des miracles. Et la différence graphique entre la version super ultra high et la version hyper basique en low sur PUBG Lite, c'est pas flagrant. Je vous confirme que le jeu devient pas beau magiquement avec ces settings là, mais ça fonctionne très bien. Il manque la dernière map de PUBG normal qui doit s'appeler Vikandi. Et à côté de ça, ils ont rajouté un mode 4v4 qui est rigolo vite fait. Hein. Je pense que si vous voulez faire du 4v4, il y a des jeux mieux fichus que ça pour y jouer. Mais voilà, donc c'est à tester, c'est gratos. Enfin, c'est un free-to-play, je viens de vous le dire. Et vous avez toutes les infos dans la news qui est sur le site.
Riot qui fête ses 10 ans et qui met les petits plats dans les grands pour le coup, parce que là, ils ont balancé une salve d'annonces assez impressionnante.
Ah bah ouais, c'est impressionnant, surtout pour une boîte qui vit depuis 10 ans avec un seul jeu.
C'est ça.
Je trouve que là, les mecs, ils sont énervés, mais un truc de taré. Donc, League of Legends, voilà, tout le monde connaît. Pour les 10 ans, ils ont fait une espèce de grosse fiesta où ils ont invité tout le gotha du streamer et des gens qui font vivre un peu la communauté de League of Legends depuis très longtemps. Et le résultat était intéressant dans la mesure où ils ont annoncé plein de jeux, mais moi, le truc qui m'intéresse le plus, en fait, c'est pas un jeu. Ils ont annoncé une série télé, figure-toi, en dessin animé, en fait, une série de dessins animés qui va s'appeler Arcane et qui est faite par en grande partie par la boîte française qui s'appelle Fortiche, qui est à l'origine du clip incroyable qui s'appelait, qu'ils avaient sorti l'année dernière avec une ambiance K-pop, qui s'appelle KDA, qui était en fait pour les Worlds de l'année dernière, je crois.
Et, je me souviens, ouais.
Ouais, on avait fait news, et encore une fois, j'ai fait news cette semaine avec toutes les annonces résumées, et vous retrouverez justement KDA à l'intérieur. Si vous aviez raté ce clip, allez le voir, hein. Franchement, c'est, même si vous aimez pas le truc, juste pour le taf graphique qui est dessus, c'est incroyable, le montage est fabuleux. Il y a vraiment un boulot de ouf. Ils avaient mis un an pour le sortir, donc autant vous dire qu'ils font pas ça tous les ans non plus. Et du coup, le look de la bande-annonce est magnifique. Donc Arcane, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, même si moi, League of Legends, c'est son univers, mais alors, je m'en contre-tamponne. Je suis désolé, hein, moi, je suis dans le camp Dota 2 depuis le départ, et je suis fidèle. Et j'ai jamais accroché à League of Legends réellement. J'y ai joué, hein, trop d'ailleurs, mais c'est vraiment pas mon univers, c'est vraiment pas un truc qui m'éclate. J'ai aucun attachement sur les persos. Mais là, j'ai envie de regarder la série télé quand même, parce que c'est, le dessin animé a l'air juste magnifique, et les gars de Fortiche, ils ont bien choisi le nom de leur boîte, ils sont vraiment très Fortiche. Donc à côté de ça, ils ont fait une flopée d'annonces. Le truc qu'on attendait depuis 1500 ans, c'est que League of Legends va enfin arriver pour smartphone. Alors ça, j'en avais un peu parlé quand je disais que le support de Arena of Valor allait s'arrêter, qui est fait aussi par Tencent. En Europe, ils sont en train de le dégager. C'était une copie en fait de League of Legends pour mobile. Alors moi, j'étais surpris, il y a une grosse update qui est quand même sortie en Europe là dernièrement sur ce jeu, mais bon, l'avenir en tout cas en 2020, on n'a pas de date exacte, c'est League of Legends Wild Rift, qui est une version donc adaptée pour smartphone, qui sera pas exactement le même jeu, et c'est apparemment fait pour faire des parties de 15 à 18 minutes. Donc voilà, la version smartphone, on n'a pas plus d'infos que ça. J'ai vu, il y a des démos, il y a des vidéos, si vous voulez aller voir sur le net, vous cherchez un petit peu, vous allez trouver. C'est plutôt prometteur, moi ma question, c'est pourquoi ça n'existe pas depuis 5 ans en fait, hein,
donc, c'est ça.
Donc voilà, l'autre truc dans la série, parce que j'avais fait une petite vanne dans la news qui n'était pas très gentille, où je dis, j'aurais pu appeler cette news Riot copie plus de jeux que Blizzard.
C'est ça, ouais.
C'est des choses comme ça. Donc là, ils sortent aussi Legends of Runeterra, qui est en fait un Hearthstone dans l'univers de LoL. Le jeu est déjà dispo en bêta fermée. J'ai reçu mon invite aujourd'hui, juste avant le podcast, donc je n'ai pas du tout eu le temps d'y jouer, mais j'ai regardé quelques streams et la présentation. Vous avez des liens et des vidéos et les liens vers les streams dans la news que j'ai fait sur geekzone.fr. Donc c'est du Riot tout craché, c'est-à-dire que c'est un jeu de cartes qui est l'antithèse de ce que Valve avait essayé de faire avec Artifact. Mm-hmm. Donc on est sur un truc ultra chiadé alors qu'on est en bêta fermée. Graphiquement, au niveau de la mise en place du système de jeu, ça a l'air relativement simple à piger. Après, je regardais des vieux de la vieille du jeu de cartes qui avaient l'air de dire que c'était pour le moment un peu trop simpliste. Vu les cartes et les decks qui sont faisables, ça a pas l'air, on va dire, foufou. Les mecs sont déjà en train de tourner en rond au bout d'une semaine de bêta, d'une semaine. Il y a des mecs qui ont le jeu depuis un peu plus longtemps que la vraie bêta fermée, entre guillemets. Mm-hmm. Donc, ils sont en train de se dire, bon, faut voir à terme, mais j'espère qu'ils vont faire évoluer les decks, etc. très vite. J'ai absolument pas le niveau pour vous dire si c'est le cas. Et encore une fois, j'y ai pas joué. Je vous ai linké une preview de Game Cult avec le papier. Et surtout, vous pouvez vous inscrire vous-même et essayer de rentrer dans le truc. Apparemment, ils sont assez open. Enfin, je veux dire, moi, j'ai fait aucun effort. Hein. Je me suis juste s'inscrit avec mon compte League of Legends et j'ai eu une invitation dans les 24 heures. Donc je pense qu'ils font rentrer un max de monde pour tester le truc. Il y aura aucun problème à mon avis pour choper un accès. On verra ce que ça donne l'année prochaine hein, parce que la version officielle, enfin l'ouverture officielle, si j'ai bien pigé, c'est début d'année 2020. Voilà, donc ça c'est le truc qu'on attendait sans vraiment l'attendre. Et vous verrez graphiquement, en tout cas, c'est vraiment la patte Riot. C'est très très bien fait avec des animations chiadées, etc., etc. Et par contre, je ne sais pas du tout s'ils ont prévu très vite une version mobile. J'espère que oui, parce qu'ils ne refassent pas l'erreur de League of Legends une deuxième fois, n'est-ce pas?
C'est clair.
Et après, je vais aller très vite parce que c'est les trucs, on a moins d'infos. Il y a un truc qui s'appelle Project A. Alors, tous les autres s'appellent Project quelque chose presque. J'exagère à peine. Project A, c'est en fait un projet de FPS qui, tout le monde dit que ça va être entre Overwatch, TF2 et Counter-Strike. C'est peut-être un des rares jeux qui ne sera pas dans l'univers de LoL, en fait. Tous les autres, c'est autour de l'univers de LoL. Celui-là, peut-être pas. Il y a un trailer dans la news qui accompagne le billet du podcast, comme d'habitude. Vous avez un truc qui s'appelle Project L, qui est en fait Lightning... Enfin, il a déjà un nom, lui, a priori, ça serait Lightning Rush, qui est un jeu de baston dans l'univers de LoL, et on en serait au début du développement, ce qui me paraît bizarre, puisque apparemment c'est les gars de Rising Thunder qui sont dessus. Tu te rappelles de la boîte Radiant
Tout
Entertainment,
tu avais
fait la news, donc qui a été rachetée par Riot en 2016. Donc du coup, la bonne nouvelle, c'est que comme le mec qui est à la tête de ce truc-là, il s'appelle Tom Cannon, c'est le mec qui a fait GGPO, qui est un des gars qui a codé le meilleur netcode sur les jeux de baston, qui est une façon de faire le netcode dans les jeux de baston qui a utilisé, dans MK11 et les genres de choses. Donc pareil, je vous ai mis des infos, des liens divers dans le billet de la news qui est sur le site publié cette semaine. Project F, c'est un truc sur lequel on a le moins d'infos, ça serait un Diablo-like, toujours dans l'univers de Runeterra. J'ai envie de dire, faut rentabiliser les gars. Pourquoi pas?
Ça bouffe à tous les râteliers, quoi.
Ah, là, en fait, à chaque fois, si tu veux, c'est, j'ai déjà vu ce truc-là. Oui, mais pas dans l'univers de LoL, tu vois.
C'est ça.
Donc, voilà, dans l'univers de LoL, mais pas vraiment, mais en fait, si, qui est un jeu qui s'appelle pas Project, mais qui a déjà un nom et une date de sortie, c'est League of Legends. E-sport manager, mon ami. Et oui.
Il fallait oser.
Ouais. Et comme je disais dans la news, il fallait que ça arrive un jour. Donc, c'est un jeu de management. C'est comme Football Manager, mais avec ton équipe de e-sport. Donc, voilà.
D'accord.
Tu vas pouvoir recruter tes joueurs, faire ton mercato, les virer quand ils sont nuls en mid lane. Enfin, voilà. Enfin, moi, je trouve ça rigolo parce que du coup, c'est hyper adapté à un nouveau public.
Mais
évidemment, ça va être un peu moins chiant que les tableaux que mon ami Yvan Le Fou adore dans Football Manager sur les vieilles versions. Hein. Ça sera moins Excel et un peu plus fun. Et en plus, ils vont a priori jumeler ça avec le début de la vraie saison de la vraie ligue, de la vraie vie, pour faire un truc, si tu veux, au niveau marketing qui soit imparable chez les fans.
D'accord.
Donc, il y a déjà une page officielle en ligne, etc. Les mecs ont l'air de rigoler zéro sur ce projet. Je trouve ça assez marrant. Mais je vous confirme que je n'y jouerai jamais. Donc, ne me demandez pas mon avis. En revanche, il y a Teamfight Tactics Mobile qui est enfin annoncé. Alors, TFT, c'est la copie de Auto Chess, la copie de Dota Underlords dont on a beaucoup parlé avant l'été. Je crois que c'était en juillet. On en parlait régulièrement. Et qui sort enfin donc sur smartphone. C'est pareil, hein, on se demandait, mais pourquoi les gars n'avaient déjà pas sorti en même temps le truc? Donc, leur techno a pas l'air hyper pratique, en fait, pour gérer ce genre de truc. J'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'ils fassent deux versions bien distinctes à chaque fois. Donc voilà, ils sont à la bourre par rapport à Dota Underlords et Auto Chess, mais c'est LOL. Hein, donc, s'ils ont bien fait le boulot, je pense qu'ils vont choper des parts de marché sans forcer. Et le dernier projet, c'est pas un jeu, c'est pas un film, c'est un truc qui s'appelle League of Legends Origin. C'est un documentaire, figure-toi, qui est disponible d'ores et déjà sur Netflix sur l'explosion de League of Legends.
Ah oui, je l'ai vu passer, tiens.
Voilà, donc les mecs se sont payés un petit docu pour expliquer à quel point on est devenu très très fort. Donc voilà, c'est hyper intéressant de voir le en fait, ils se sont dit Blizzard fait de la merde, on va peut-être y aller à leur place. Faut pas oublier que Riot, à la base, c'est des anciens de chez Blizzard, même si maintenant en fait, c'est Tencent derrière qui a 100% du capital, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une boîte chinoise, mais il y a 2500 employés, donc il y a un peu de petites mains pour aller sortir des nouveaux produits et sortir de l'univers de LoL, enfin en tout cas l'étendre et aller attaquer de tous les côtés tous les styles de jeux qu'ils ont jamais touché de leur vie, quoi. Donc je trouve ça assez rigolo. Et pour leur 10 ans, ils ont été quand même assez impressionnants, parce que personnellement, je m'attendais pas à une débauche d'annonce à ce point-là. Donc voilà, si vous êtes fan de ça, il y a vraiment une news qui compile tout sur Geekzone, parce que comme on n'aime pas l'argent, j'ai tout mis dans une seule news, j'en ai pas fait 50.
voilà, on est con parfois.
On est vraiment stupide. Dans tous les autres sites, on fait évidemment une news par trailer. Hein, faut pas déconner.
Oui.
Donc voilà. Donc faites-vous plaisir et puis vous allez pouvoir comme ça récupérer toutes les infos que vous avez ratées cette semaine si vous avez un vrai travail comme les vrais gens.
C'est ça. On va parler d'Apex Legends.
Alors vite fait parce que Apex reste fidèle à lui-même, c'est-à-dire qu'on continue de rajouter des choses, mais on fait des petites surprises sans en parler. Le truc qui est intéressant en ce moment à tester, c'est évidemment la nouvelle map. Hein, si vous l'avez pas fait, il y a une nouvelle map, un nouveau perso hacker, on en a déjà parlé. Mais le truc de la semaine, c'est Halloween. Donc ils ont sorti un mode Halloween, Apex Legends Halloween, qui s'appelle Shadowfall, voilà, et qui est un truc limité dans le temps. Et ça, je trouve ça un petit peu stupide. On pourrait y jouer que jusqu'au 5 novembre. Et c'est peut-être un des meilleurs modes qu'ils aient fait depuis longtemps. C'est un mode solo, alors c'est stupide, et très efficace en même temps. Tu retrouves la map précédente, donc on n'est pas sur la nouvelle map qui vient de sortir, mais tu es sur la map précédente de nuit, avec des bestioles genre mort-vivante, etc. Sur tous les les oiseaux et les dinosaures que tu as normalement, ils auront collé des skins un petit peu fantasmagoriques, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui, ça se dit, ouais.
Ça se dit, oui, bon, hein, c'est des trucs qui est pour faire peur. Voilà. Et vous dropez en mode solo. Et là où c'est drôle, c'est qu'on est que 34 ou 35, je crois, qu'on débute le game. Et à chaque fois qu'un mec se fait buter, il va se transformer en ghoul, en fait, en shadow. Et tu vas revenir sur la map et tu vas essayer de buter les mecs qui sont toujours vivants.
Un petit côté Left 4 Dead.
Alors attends, c'est là que c'est drôle, c'est complètement Left 4 Dead, mais avec un petit twist en mode genre, quand il reste plus que 10 mecs vivants sur la carte, les gars sont automatiquement dans la même team en fait. Et là, votre but, c'est de vous sauver et de vous aider en fait, de survivre jusqu'à l'arrivée du vaisseau pour rentrer dans le vaisseau et vous barrer en fait.
D'accord.
Et donc, le but des Shadows, c'est de buter tout le monde pour gagner la partie. Alors évidemment, et comme dans tous les jeux asymétriques du genre, c'est plus facile du côté des vivants que des morts, parce que les shadows ont très peu de points de vie, et il y a un autre problème très stupide qui est qu'en fait ils sont mis très peu de points de vie en se disant au bout d'un moment il reste que 10 mecs, on est censé avoir 24 shadows ou 25 sur le dos, et du coup ça va être tendu pour les mecs qui, même s'ils ont des guns, etc. Tu peux one shotter un gars avec un coup de griffe, hein, donc normalement ça va assez vite, sauf que ils ont pas changé l'écran quand tu meurs, ce qui fait que par réflexe plein de gens quittent la partie et reprennent la partie, refont une game, mais en fait ne restent pas dedans et ne reviennent pas en shadow, ou même quand ils vont recrever en shadow, au bout d'un moment, soit ils sont saoulés, soit ils aiment pas le style, enfin ils se barrent. Donc des fois, tu te retrouves avec moins de 10 shadows pour arrêter genre 10 mecs, donc évidemment, ça ne marche jamais. Donc voilà, c'est le seul, je trouve que c'est un peu dommage. Il devrait y avoir plus d'incentives où ils auraient dû changer l'écran pour que les gens pigent que c'est rigolo et qu'il faut rester en shadow et que vous barrez pas, restez les gars, quoi. Donc c'est le seul petit problème. Sinon, le mode de jeu est quand même bien rigolo, et le fait de pouvoir jouer en solo en début de game les uns contre les autres, ça nous rappelle que le mode solo, finalement, c'est pas si débile, et ça serait bien de le rajouter, messieurs de Respawn.
J'ai fait une news cette semaine pour vous parler de la sortie d'une nouvelle version de ScumVM. Alors j'imagine que tout le monde connaît ScumVM, l'émulateur. Enfin, c'est pas vraiment un émulateur, c'est un interpréteur qui permet donc de faire tourner les anciens jeux qui avaient été codés avec Scum, qui était donc le moteur de script développé par LucasArts à la belle époque, hein, des Days of the Tentacle, yes, et Sam & Max. Donc là, ils ont fait une grosse mise à jour. C'est la version 2.1.0. Plein de nouveautés, compatibilité avec des nouveaux titres, dont Blade Runner. On en avait déjà parlé sur Geekzone quand c'était encore en bêta. Lifting de l'interface, il y a un portage qui existe maintenant pour Nintendo Switch, et ça c'est plutôt bien vu. Pas mal d'améliorations et de corrections de bugs, améliorations notamment du côté des versions Android et iOS. Nouveau mode d'affichage pixel perfect, hein, pour les gens qui sont un peu puristes. Meilleure émulation du Roland MT32,
yes.
Un support du text-to-speech sur macOS et Linux, parce qu'apparemment ça n'existait pas encore. Et puis last but not least, et là c'est plutôt cool aussi, je l'ai dit, ça y est, c'est fait.
Ça c'est fait.
Synchronisation des sauvegardes dans le cloud, notamment avec des services comme Dropbox, OneDrive, Google Drive ou Box. Donc ça, c'est vraiment une chouette nouvelle, puis ça va permettre donc de passer d'une machine à l'autre sans avoir à s'occuper de ses sauvegardes, ce qui était encore un frein jusqu'à il y a peu. Et donc on retrouve le même principe que dans Steam, hein, vous jouez, vous sauvegardez, hop, c'est dans le cloud, et vous pouvez récupérer ça sur n'importe quelle machine. J'ai fait une petite news qui vous rappelle donc toutes les nouveautés, qui vous permet aussi donc d'aller récupérer cette nouvelle version. Et si vous n'avez pas de jeu officiel qui tourne dans Scum, sachez qu'il y a des sites qui propose des jeux gratuits, dont le site de Scum d'ailleurs, des jeux gratuits comme Beneath the Steel Sky ou Flight of the Amazon Queen. Alors Flight of the Amazon Queen, c'est pas le jeu de l'année, mais bon, voilà, ça vous permettra de faire tourner la bébête et de voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis après, si vous avez encore vos vieux ISO de Day of the Tentacle ou de Sam & Max, vous pouvez les insérer dans cet émulateur entre guillemets pour pouvoir donc y rejouer et reperdre un bon week-end dessus facilement. Moi, ça m'arrive assez régulièrement quand ils sortent une nouvelle version, je lance pour voir à quoi ça ressemble et puis finalement 3 heures plus tard, je suis toujours dedans. Bref, Scum VM version 2.1.0, je vous linkerai la news que j'ai créée cette semaine sur Geekzone et on va parler de Fortnite, vraiment.
Non, 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 on va pas en parler. On va juste dire qu'ils ont fait un truc rigolo, c'est que pour changer la map, ils avaient une grosse mise à jour à faire, ils ont fait un énorme trou noir, tout le monde en a parlé, hein. C'est passé sur The Guardian, Le Monde, tout le monde a fait sa news sur Fortnite parce que Fortnite, ça fait du clic, même quand c'est une bonne nouvelle, enfin je veux dire, c'est même pas du clickbait, c'est juste que c'est tellement maintenant un jeu énorme et rentré dans la pop culture que je comprends que tout le monde en parle. J'ai trouvé l'idée assez rigolote, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis, mais en manque, je ne sais pas combien de gamins et de moins gamins d'ailleurs, hein, parce que bah, le jeu n'était pas accessible en fait. Hein, à l'heure annoncée, il y a une espèce de trou noir qui a avalé la map, les joueurs, et après, tu ne pouvais plus jouer pendant quelques jours, le temps que la mise à jour se déploie partout, j'imagine. J'ai vu des vannes passer extraordinaires sur Twitter avec imagine, il ressort en version full price à 40 balles maintenant. C'est le meilleur plan de dealer de drogue de la Terre.
Sans déconner.
Et moi, j'aurais tellement ri. Donc, évidemment, c'est pas ce qui s'est passé. Mais Epic n'a pas vraiment fait une patch note, tu vois. C'est pas les mecs de Apex, tu vois. Donc, ils ont sorti la nouvelle version. Et puis, ça fait partie du jeu, entre guillemets, de découvrir ce qu'ils ont changé, ce qui est nouveau, etc. Donc, je vous ai linké une news de Kotaku où ils ont essayé de faire l'inventaire de tous les trucs qui ont changé. Et bah, j'ai presque envie de réinstaller pour aller voir la gueule du truc. Parce que maintenant, tu peux faire des vrais plans de Battle Royale comme je les aime. C'est-à-dire, tu vois, des trucs pas du tout fourbes, genre te planquer dans une poubelle, te planquer dans un buisson. Avant, les buissons dans Fortnite, c'était solide, tu vois, tu pouvais te mettre derrière, mais tu pouvais pas rentrer dedans. Maintenant, tu peux rentrer dedans, tu peux te planquer à l'intérieur, sauf que bah, c'est un peu abusé, parce que je crois qu'ils ont corrigé ce bug, mais enfin j'espère, mais tu pouvais zoomer avec certains flingues, et le buisson, il n'y avait pas les feuilles devant toi, en fait, tu vois. Ça faisait... Donc, tu pouvais te planquer et buter les mecs, ce qui était juste bah, pour un jeu qui veut faire du e-sport. C'est pas une grande idée. Hein,
ça va plaire à Spy, ça.
Ouais, voilà, ça. Ah, Spy, si tu nous écoutes. C'est un vieux de la vieille de la communauté de Geekzone qui est notre... le meilleur buisson d'entre nous.
C'est ça.
Le mec, il se planque derrière un brin d'herbe, il fait « Je suis caché là ». Non, c'est pas, tout le monde te voit. Ah, c'est génial. Bon, on a des sauvegardes sur mon channel Twitch. Je pense qu'il y a 2-3 vieilles games avec lui qui valent le coup. Bref, la news de Kotaku résume tous les trucs de cette version de Fortnite. Et bah, si vous pensiez que vous alliez vous débarrasser du jeu, que vos plus jeunes allaient arrêter d'y jouer ou que vous-même alliez décrocher, ça a l'air mal barré parce que les gars sont quand même assez forts pour faire évoluer leur jeu. Maintenant, j'attends de voir ce qu'ils vont encore inventer derrière. Le truc qui m'a fait le plus marrer dans ce qu'ils ont piqué d'ailleurs, enfin parce qu'ils ont piqué plein de trucs à Apex, hein. Ils ont piqué le fait que tu puisses relever tes coéquipiers, etc. Mais là, ils ont rajouté un truc qui n'est dans aucun autre jeu, c'est que tu peux porter les gens qui sont tombés à terre pour les mettre ailleurs. Et du coup, tu peux faire plein de plans, que ça soit tes alliés ou les ennemis en fait. Du coup, ça ouvre des perspectives de plans un peu plus. Excusez-moi, je dis un gros mot, mais il n'y a pas d'autres mots. Et j'ai déjà vu 2-3 vidéos assez marrantes là-dessus. Donc voilà, des fois, ils ont des bonnes idées et c'est bien qu'ils continuent.
Et on termine cette section gaming avec Disco Elysium, dont j'entends beaucoup parler, mais j'ai pas encore eu le temps vraiment de regarder ce que c'était. Donc voilà, je suis content que tu en parles.
Eh bah ouais, bah c'est hyper cool parce que moi, j'y ai pas joué non plus. Alors moi, je fais un podcast où je parle de jeux vidéo et j'y ai pas joué. Mais c'était juste pour vous dire que Disco Elysium, déjà, c'est effectivement RPG. Il y a un débat. Donc c'est un RPG avec un espèce de flic ultra raté. J'ai même pas envie de parler du jeu parce que ce que j'ai fait, c'est que ouais, je sais, c'est un truc, c'est mal, c'est moche. J'ai linké l'article de Gotoz et je crois qu'en fait, tu ne peux le lire que si tu es abonné Gamekult. Donc c'est pas très, très gentil, mais bon, tout le monde a des codes, tout ça, les gens. Voilà. Hein, donc c'est juste pour vous dire qu'il a eu 9 sur 10 sur Gamekult. C'est suffisamment rare pour être noté. Et qu'il n'y a pas de débat. C'est pas parce qu'il n'y a pratiquement pas, il n'y a pas de combat dans Disco Elysium, hein, quasiment. C'est toutes les interactions que vous allez avoir avec les gens de cet univers. Ça va se gérer à coup de jet de dés. Et a priori, c'est non seulement très bien fait, mais c'est très original et très bien écrit. Donc a priori, c'est la bombe du RPG occidental, nous a dit Gotoz. Moi, je le crois. J'ai fait une connerie parce que j'apprends pas, hein, même avec l'âge. J'ai acheté le jeu, évidemment. Et je l'ai acheté full price, alors j'aurais pas le temps d'y jouer avant à peu près 14 ans. Mais mais je veux y jouer. C'est fait en Estonie par une boîte qui n'avait jamais fait de jeux vidéo avant, donc c'est pour vous donner un peu le niveau des mecs quand même. Hein. Mm-hmm. Ils se sont énervés et je vous conseille d'aller l'acheter sur GOG, puisque quand vous l'achetez d'ici le 22, vous avez un autre RPG très Fallout dans l'esprit, gratos avec, mais jusqu'au 22. Après, ça sera plus, il n'y a plus de cadeaux. Et puis, je rappelle que GOG, c'est des petits gars bien, donc bah voilà, c'est bien d'aller l'acheter chez eux.
Surtout, ça marche pas trop bien en fait, leur portail de vente de jeux, donc il faut aller les soutenir.
Ouais, franchement, ils méritent. Et puis, enfin, ils marchent pas trop bien commercialement parlant. Hein. Techniquement, il
oui,
n'y a pas de souci. Je préfère préciser. Bah non, mais
oui,
je vais pas
bien, oui.
Je vais pas l'acheter chez des trucs, ça marche pas. Non, ça marche très bien, tout va bien.
C'est pas super rentable, on va dire.
Voilà. Et la version 2.0 d'ailleurs de leur launcher se goupille plutôt pas mal. Donc voilà, faut aller leur donner un petit coup de main. Ça, ils méritent. Donc voilà, je voulais juste vous dire que Disco Elysium, c'est sorti. Ça a l'air magnifique. Je vous laisse découvrir. Faites des recherches sur le net. Allez lire des news, allez mater des vidéos sur YouTube, etc. Et vous laissez pas impressionner par les mecs qui disent que bah oui, mais bon, fou là là, c'est quand même hyper dur. Non, bah faut lire du texte. Alors c'est pas Fortnite, voilà. Et il en faut pour tous les goûts. C'est hyper important. Non, il faut utiliser son cerveau, mais a priori toutes les situations sont drôles, et même quand vous ratez un jet de dé sur une action, bah c'est bien, c'est rigolo de rater des trucs. Donc apparemment il y a un moment, il y a une phase karaoké, quand tu rates c'est juste magnifique, et voilà. Et en fait t'as des voix dans ta tête en fonction des points que t'as mis, ton personnage se parle en fait, tu vois, avec ses différentes D'accord. personnalités. Et moi franchement je suis même étonné que tu l'aies pas acheté, que tu vas te bloquer dessus, parce que c'est typiquement le genre de jeu qui va te faire délirer, je pense.
Bah, écoute, je vais aller regarder ça, ouais.
Voilà, je pense que c'est pour toi.
Disco Elysium, donc on va passer du côté de la culture. Je voulais vous parler d'une nouvelle série télé qui s'appelle Evil. C'est une nouvelle série produite par le couple Robert et Michelle King, qui avaient déjà fait des séries comme The Good Wife, The Good Fight ou encore l'excellent Braindead. D'ailleurs, Braindead, si vous n'avez jamais maté, c'est absolument fantastique. Et il y a Marie et Elisabeth Winstead dedans, donc voilà, c'est un bonus. Mais donc Evil, c'est leur nouvelle série. Le trailer donne un peu l'impression que c'est une série d'horreur ou d'épouvante. C'est pas du tout le cas. C'est plutôt un thriller psychologique. Le pitch, c'est une psychologue forensic psychologist, comme ils disent aux États-Unis, donc une psychologue légale qui est en général chargée de démontrer que les gens ne sont pas possédés par des démons et qu'ils sont juste voilà, ils essaient juste de passer les mailles du filet de la justice en se faisant passer pour des possédés. Et elle rencontre un prêtre en fait, c'est pas un prêtre, c'est un assesseur pour l'église qui est incarné par Mike Colter, qui avait fait Luke Cage, et qui l'a en langage en fait pour lui dire voilà, moi j'arrive pas à faire la différence entre la possession et la folie, et j'aurais besoin que tu m'aides en fait à faire la distinction. Et donc elle va être confrontée à des affaires qui sont quand même assez étranges, bizarres, et elle va commencer tout doucement à plonger dans un autre univers, univers de phénomènes inexpliqués. C'est vraiment très très bien écrit, c'est malin, le casting est génial, et comme toujours avec le duo King, c'est vraiment de la bonne écriture, et c'est très très propre et très très ciselé, on va dire. Donc moi je suis vraiment méga fan. Je vous ai linké le trailer, mais ne vous fiez pas au trailer. Le trailer est un peu trompeur, on va dire. Il insiste un peu trop à mon goût sur le côté horreur. C'est vraiment une série où on se marre bien et on passe un bon moment. Il y a 3 épisodes pour le moment. Ils ont commandé une série complète, une saison complète, mais je sais pas encore combien d'épisodes il y aura, si ce sera une saison de 13 épisodes ou une saison de 22. Mais bon, quand on en saura plus, on vous le dira. Mais en attendant, allez mater, c'est vraiment très très bien. Evil, donc, la nouvelle série de Robert et Michelle King sur CBS. Et puis on va passer du côté de la tech avec des nouvelles du côté des téléphones mobile.
Oui, parce que chaque mois, chaque téléphone... Ah non, pardon, c'est pas comme ça qu'on dit. Y a les reviewers américains, ils parlent de Techtober, tellement il y a d'annonces au mois d'octobre en général. Uh-huh. Là, c'était le tour de Google d'annoncer plein de trucs. Et évidemment, dans les plein de trucs, il y avait les nouveaux téléphones Pixel qui sont rendus au chiffre 4. Il n'y avait plus rien à annoncer, puisqu'en fait, il y a des leaks depuis des semaines, donc on savait exactement quelle tête ils avaient, on savait ce qu'ils allaient faire, etc. Mais maintenant, au moins, on a les prix, et on sait qu'en France, vraiment, Google rien à foutre de la France. Parce qu'il y a 3 couleurs dispo, mais nous, on n'en aura qu'une. Mais je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Alors je vais aller relativement vite, et pour ceux qui voudront plus d'infos, bah comme d'habitude, j'ai linké un papier complet de The Verge et la vidéo de la première prise en main, si tu veux, de MKBHD, qui est un des youtubeurs les plus intéressants américains sur ce genre de sujet. Alors pour l'instant, il n'y a pas de test, hein, c'est vraiment des prises en main qui ont été faites au moment de l'annonce et juste après l'annonce. Dans les gros problèmes, il y a le prix en fait, hein, parce que je te rappelle que historiquement, quand ils faisaient des téléphones, c'était les Nexus, etc. Les premiers Pixels, les gens aimaient bien parce que c'était l'expérience Android pure, sans surcouche. et un prix cassé. Alors pour le prix cassé, c'est terminé, hein, c'est fini, ça n'existe plus. Donc je commence par ça, comme ça vous serez tout de suite calmé. Le prix, ça commence à 770€.
Ouch.
Et 900 pour le Pixel 4 XL et le tout en 64Go. C'est cher. Ça veut dire que le Pixel 4 XL, il est à 1000 balles en 128. Et en plus, il n'y a pas de config plus grosse que 128Go. Ça fait plusieurs raisons d'être vénère. Il n'y a pas de capteur grand angle au niveau de l'appareil photo. Donc, vous avez un espèce de carré exactement comme sur l'iPhone 11 au dos. Enfin, en tout cas, sur le modèle Pro. Et la logique, en fait, sur ce capteur carré, c'était de mettre trois objectifs, si tu veux, et de caser flash et capteur laser, enfin, tout le matos. Et eux, en fait, il n'y a que deux objectifs, donc on ne sait pas trop pourquoi ils se sont pris la tête à faire un truc comme ça. Enfin, là, il y avait moyen de faire moins moche, on va dire. Les téléphones de chez Oppo et compagnie, ils ont une autre façon d'intégrer leurs modules qui sont, à mon avis, un peu plus jolis. Et puis, en plus, le capteur frontal est super limité, donc c'est 1080p 30fps sur les iPhone 11. Ils ont vraiment fait des trucs beaucoup plus violents. Donc voilà, et donc chez nous, ça sort le 24 octobre, si je dis pas de bêtises, et on a droit qu'à une seule couleur, qui est le noir brillant. Voilà, parce que les autres couleurs, apparemment, on les voit pas. On n'est pas digne. Alors après, je me plante peut-être, mais bon, ça va être avec Google, faut se méfier. Mais j'ai toujours un peu l'impression qu'ils sortent ces trucs-là chez nous, mais pour faire style, tu vois. J'ai pas l'impression qu'ils soient super motivés. En plus, alors l'autre problème, c'est qu'on en est au Snapdragon 855 Plus, donc le processeur à l'intérieur des flagships dans les autres marques, et eux, ils intègrent le Snapdragon 855, qui est le modèle d'avant, moins cher. Donc c'est pareil, quand tu sors un téléphone à ce prix-là et que tu mets pas le top du top partout.
Oui, ça fait un peu tâche, ouais.
Voilà, je vous cache pas qu'en termes de design, il est assez particulier parce que c'est un écran avec un énorme front. Donc tout le haut de l'appareil, c'est les capteurs, etc. Et ça fait ça lui donne un look asymétrique assez bizarre. Moi, je suis pas très fan. Mais bon, après, c'est ça ou le notch, donc ou les micro notch ou les appareils photo qui sortent comme sur certains modèles chinois. Donc bon, chacun préfère ses trucs. C'est un peu comme les couleurs, hein. Vous débrouillez. Mais bon, je préfère vous prévenir. Il a une gueule un petit peu chelou, et en tout cas tout le monde est pas méga fan. Dans les trucs rigolos dont il faut parler, il y a une reconnaissance faciale. Ils ont viré tout ce qui était l'équivalent de Touch ID, tu vois, qu'il y a plus de reconnaissance d'empreinte digitale. C'est le Face ID, sauf qu'évidemment ça s'appelle pas Face ID parce que ça c'est chez les gens d'en face de chez Apple. Mais ils ont donc mis un radar, et en fait le truc qui est assez rigolo, c'est que le téléphone sait exactement au moment en fait où t'attrapes le téléphone, il sait que tu es en train de l'attraper et que tu vas le regarder en fait. Donc en fait il arrive vers toi, il est déjà déloqué le truc. Ça va ultra vite, ça marche assez bien. Il y a deux problèmes avec cette techno. C'est que la première, c'est qu'ils utilisent des lasers avec un truc qui s'appelle le Motion Sense Radar, mais en fait c'est un système de laser avec des fréquences assez spécifiques à l'intérieur. Du coup, le téléphone est interdit de marcher indien. Donc je ne sais pas s'ils le savaient avant, mais du coup quand tu perds 1 milliard et quelques clients potentiels,
oui, c'est un peu dommage.
D'accord. Donc j'espère qu'il va, je sais pas, il y a peut-être des mecs chez eux qui se sont dit non, mais on va s'arranger avec la loi, on va leur faire changer la loi là-bas, je ne sais pas. Enfin en tout cas, il peut pas être vendu en Inde à cause de ça, donc c'est un peu dommage. Et puis l'autre truc, c'est qu'ils ont pas du tout mis de capteur d'attention à l'intérieur. Donc ça veut dire que là, sur iPhone avec Face ID, si vous réglez le truc par défaut, si vous ne regardez pas votre téléphone, il va pas se déloquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un vous menace, si quelqu'un vous emmerde, etc., pour essayer de vous forcer à déverrouiller votre téléphone en vous le mettant sous le pif, vous pouvez résister en fait. Tu vois, comme tu pouvais résister avec les empreintes digitales. Pour les malvoyants, etc., tu as la possibilité qu'ils ne vont pas forcément bien visualiser où est-ce qu'ils doivent regarder, etc. Ils ont désactivé ce truc-là. C'est désactivable dans les options pour le déloquer plus facilement, mais c'est toi qui choisis si tu veux. Tu peux baisser la sécurité ou pas. Tu n'as pas le choix en fait sur le Pixel 4 pour l'instant, et en fait Google t'explique hein, c'est assumé hein, c'est dans les settings que en fait tu dors ou t'es mort, on peut déloquer ton téléphone avec ton visage, voilà. Et c'est comme ça, et comme il y a pas d'autre méthode pour verrouiller ton truc à part un code, je trouve ça, enfin moi personnellement je suis un peu surpris, et quand on connaît l'ambiance actuelle avec les forces de l'ordre un peu partout sur la planète, n'est-ce pas? Et puis les problématiques dans les couples, et qu'on sait que le cyberespionnage dans les couples, en fait, c'est une des premières raisons du cyberespionnage, en fait, devant les trucs échos et tout. Je me dis que c'est pas ultra malin de pas offrir une protection un peu plus verrouillée que ça. Bref. Donc maintenant, vous êtes au courant. L'autre truc intéressant, c'est que quand même, ils ont mis un écran OLED à 90Hz, et ça, c'est plutôt cool, parce que moi je ne l'avais pas dit encore dans cette version-là, et je voulais le dire.
Check.
Il est check. Qu'il est résistant à la flotte, etc. IP68 a priori. Et qu'il y a une fonction, mais dispo que en anglais, assez bluffante, qui est le mode dicté. En fait, t'as un dictaphone, comme dans tous les téléphones, sauf que là, en fait, il va te faire la transcription automatiquement. Et quand tu peux faire une recherche après derrière, donc tu peux dire quand est-ce que j'ai parlé de ça, et ça va te mettre au bon timecode, en fait, directement dans le Wave.
D'accord.
T'imagines, pour faire, enfin, à terme, pour faire du montage de podcast, par exemple.
Oui, c'est
ça,
bien.
Ça peut être assez rigolo. Évidemment, ça ne marche que en anglais pour l'instant. Je crois que c'est prévu en 2020, sans plus de précision, pour les autres langues, dont le français. Donc voilà, c'était les annonces. Ils ont annoncé d'autres trucs, mais c'est plutôt le passage au cimetière qu'ils ont annoncé. Donc il y a le Daydream. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce truc-là.
Pas
système,
du tout.
C'était un casque de VR dans lequel tu mettais ton téléphone, qui était sorti en 2016. Et puis après, tu avais des applications pour aller te balader en réalité virtuelle, mais avec ton téléphone, en fait.
Mm-hmm.
Bon, alors, évidemment, ça, c'est poubelle, c'est officiel, mais on le savait déjà, vu que les Pixel 3 étaient déjà pas compatibles. La blague, c'est qu'en fait, a priori, les gens, ce qu'ils kiffaient pas dans le Daydream, c'est que ça leur privait de téléphone, en fait. Ça les privait de téléphone parce que le téléphone, il était dans le casque.
Bon,
donc,
enfin.
donc, tu peux plus téléphoner, puis si tu reçois une notification, bah, ça te sort du truc 3D. Enfin, tu vois, donc c'était
quoi.
En fait, c'était la fausse bonne idée ultime, donc le truc est complètement mort. Hein. C'était pour concurrencer un projet de Samsung qui est lui aussi, je crois, décédé. L'autre truc qui est mort, ce sont les caméras clips, qui étaient censées être des caméras avec intelligence artificielle, qui faisaient les photos elles-mêmes, etc. Bon, bah, ce truc-là, je crois que c'était dispo sur le store, mais ils ont dû en vendre deux, puisque même chez les fans de tech, personne ne les a vraiment vus dans la nature, donc c'est assez rigolo. Et l'autre annonce en carton, pour de vrai, c'est les Pixel Buds, enfin, l'annonce en plastique. Ils ont sorti, et annoncé, en tout cas, pas sorti, des concurrents des AirPods, qui est en fait une évolution d'autres écouteurs qu'ils avaient déjà sortis. Sauf que le truc, il est tellement pas prêt que là, ils ont montré une maquette.
Ok.
Donc, c'était même pas un proto. Donc, personne les a, même sur place, ils ont pas pu tester, savoir si le son était correct ou quoi au caisse. Ça ne fonctionnait pas. Donc, ça sortira quelque part en 2020. Mais pour l'instant, on n'a pas d'infos, techniquement, on sait pas trop ce que ça va donner. En revanche, il y a rien dans les specs qui ont l'air, les specs, elles sont annoncées, par exemple, sur l'autonomie. Ils annoncent 5 heures de batterie avec 24 heures avec le charging case. Mais, c'est pas ouf. Hein. C'est ce que font déjà les AirPods, quasiment. Et les nouveaux casques de Beats font mieux. Donc voilà, c'est pas fou. Et le truc, un des trucs les plus sexy qu'ils ont annoncé pour les fans de Chrome OS, je crois qu'il y en a. Enfin, vous êtes peut-être deux, mais c'est pas grave.
C'est pas mort, ça. Je croyais que c'était mort Chrome
non,
OS.
Non, oui.
Non, c'est les Chromebooks qui sont morts.
Eh ben oui, mais non. Donc là, ils ont sorti un Pixel Book Go. Et alors, c'est hyper drôle parce que c'est un truc, tu sais, c'est hyper chiadé, ils le mettent vachement en avant aux US et tout. Et donc, je vous conviens que ça ne sortira pas en France. Voilà, comme d'habitude avec les Pixel Book. Donc, mais sachez que ça existe. Donc voilà, c'était quand même pas mal d'annonces de chez eux. Mais je vous avouerai que là, vous regarderez, mais tous les mecs qui ont fait le décortiquage des annonces sont, on va dire, mixed feelings, tu vois, comme disent les Américains.
Mitigés
de ouf. En se disant, bon, il y a des trucs qui sont vraiment, vraiment intéressants. Il y a des avancées techniques en termes de software, il y a quelques trucs, il y a des choix qui sont mais vraiment difficilement compréhensibles, surtout quand tu veux te la jouer flagship, c'est nous qui tirons l'industrie, etc. C'est-à-dire que pour l'instant, tu trouves des rapports qualité-prix ou des flagships plus intéressants chez des marques chinoises concurrentes, donc, ce qui est un petit peu bizarre, et que tu te dis que quand même Google, avec tout ton argent, tu peux faire mieux que ça, tu peux faire un effort.
Donc pour toutes les news Google, on vous a linké donc des papiers qui vont bien dans le biais qui accompagne ce podcast. On va parler d'une nouvelle vague de rétro gaming à prévoir, décidément.
Non, alors une nouvelle sans être nouvelle, c'est des gars qu'on connaît déjà, qui sont des habitués en fait de la fabrication de consoles pour le rétro gaming, qui mm-hmm. vont sortir en 2020, on n'a pas la date, un truc qui s'appelle Analog Pocket, ça c'est le nom de la boîte, pardon, et qui sort en fait une copie de Game Boy qui va supporter plein de jeux, et qui va coûter $200, donc vous avez intérêt à avoir vraiment envie de jouer à vos vieux jeux. Le truc, pourquoi j'en parle, parce qu'en fait le design, c'est que des rendus 3D, j'ai pas l'impression qu'il y a de vrais prototypes, mais je peux me tromper. Tout ce que j'ai vu est vraiment effectivement super sexy quand on est fan de rétro gaming. Moi, j'avoue que $200 pour aller jouer à mes vieux jeux Game Boy et compagnie, je m'en fiche un peu, mais comme à l'intérieur ils ont mis ce qu'on appelle donc du FPGA, c'est des choses qui sont, c'est du hardware qui est programmable en fait, donc
d'accord.
Tu peux dedans optimiser les moteurs d'émulation, etc., etc. Ils ont l'air d'avoir mis du gros matos à l'intérieur. Je vous avoue que ça me passionne pas plus que ça, mais je sais que sur Geekzone, il y a des gens qui sont au taquet. Alors sachez que ça va émuler le Game Boy. J'aime bien foutre la merde en fin de podcast. Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Gear. Tu vois, Game Gear. Je fous vraiment la merde à la fin de ce podcast.
Game Gear, normalement, on prononce bien.
Si tu leur dis pas, ils savent pas. Neo Geo Pocket Color, et comme le truc est programmable et qu'a priori les premiers, enfin, ils avaient déjà été entre guillemets hackés, la communauté Homebrew s'était déjà fait plaisir sur les précédents modèles, donc je pense que ça sera le cas. La chose a l'air extrêmement jolie, gère le 1600 par 1440 sur un écran tout petit, donc c'est un peu overkill pour du Game Boy, mais ça va être ultra pixel perfect parce que normalement les ratios sont respectés. Et y a des tas de trucs de prévus comme un dock pour pouvoir jouer en HDMI sur votre télé directement au vieux jeu, etc., etc. Donc j'ai linké un papier ultra complet d'Ars Technica, allez voir ça, et puis dans les forums de Geekzone vous nous direz ce que vous en pensez. Moi personnellement je trouve que ça reste quand même beaucoup d'argent pour jouer à ça, écoute, il y a des fans qui se fassent plaisir.
Et puis comme on a été long, un petit cadeau pour terminer cet épisode de Torréfaction, un petit rant de Jean-Pierre Caff.
On va me dire oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça, oui je le jette parce que ça c'est honteux, ça c'est de la merde.
Alors, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui te chafouine?
Ah, est-ce que ça fait longtemps qu'on n'a pas dit de mal de Google et de Google Chrome, surtout? Alors, c'est un rant qui est un peu particulier parce que vous expliquez le truc en audio, ça sera un peu compliqué, donc ça va être surtout linké dans le billet du podcast. Mais en gros, il existe un truc quand vous installez Chrome qui s'appelle le Chrome Software Reporter Tool. Et lui et moi, en fait, on a eu une discussion assez mouvementée cette semaine, donc je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Et comme par hasard, j'ai trouvé pas mal d'infos sur le sujet. Je voulais faire une news sur Geekzone, je n'ai pas eu le temps, donc je vous link un papier de chez jhax.net qui vous explique à quoi ça sert et pourquoi des fois ça fait vraiment chier, parce qu'en fait de temps en temps ce truc se déclenche pour aller scanner tout votre disque dur pour vérifier que vous n'avez pas des choses qui pourraient empêcher le fonctionnement de Chrome sur votre machine. C'est pour vous rendre service, tu vois.
Mais oui.
Pas du tout, à aucun moment, ça ne va envoyer des informations à Google pour savoir ce que vous avez installé et si jamais vous avez installé Firefox, vraiment, vous êtes trop des méchants. Mais potentiellement, puisque vous êtes en train peut-être d'utiliser Google Chrome. Donc bref, je vous link le papier, ça va vous expliquer comment faire en sorte que ce soft ne se déclenche pas, par exemple, quand vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo un peu gourmand, puisqu'en fait, le nœud du problème est là, c'est qu'il vous demande pas votre avis quand il se déclenche.
Ah, en plus.
Et du coup, votre bécane peut être en mode genre, écoute, là, je vais ramer, mais je vais pas te dire pourquoi. Donc, vous avez toutes les infos dans le billet que j'ai linké. Le truc, une des raisons qui fait que je n'ai pas envie de faire cette news, c'est qu'en plus, c'est un genre de billet qu'il faut mettre à jour très régulièrement, puisque Google fait évoluer ce genre d'outils très régulièrement aussi, et donc les astuces pour le bloquer sans casser Google Chrome, entre guillemets, sont à faire évoluer et sont un peu chiantes à mettre en place. Mais là, il y a toutes les infos. Hein. Il y a les screenshots, vous aurez toutes les infos pour faire en sorte que le truc se déclenche pas dans votre dos. Donc non, ça ne vous empêchera pas d'utiliser Chrome ou quoi au caisse, mais voilà, donc on vous rappelle qu'il y a des alternatives aux utilitaires Google. Et ça, ça fait partie des raisons qui font que de temps en temps, c'est pas mal de faire le ménage. Sachez pour rire que j'ai réussi à installer Chrome sans le vouloir, d'ailleurs sur mon Mac quand j'ai fait ma réinstallation, en installant un tool tiers en ligne de commande. Et là, j'ai vu Chrome s'installer dans les dépendances du tool. Et j'étais là genre, ah, là, t'es quand même très très fort. Bon, c'est une autre histoire, mais bon, bref, les mecs sont très 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 balèzes pour vous faire installer leur soft. Et ça, on le savait déjà. Donc voilà, vous aurez toutes les infos. Et moi, en tout cas, je voudrais dire à Monsieur Google que si j'ai un problème, mettez-moi un bouton, hein, mais déclenchez pas des trucs pour m'aider, entre guillemets, sans me prévenir. Ça a vraiment le don de m'énerver.
Et c'est la fin de ce Torréfaction, épisode 105. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, on va aller finir de réparer nos bécanes.
Okay, c'est ça, c'est ma vie maintenant, apparemment, que je n'ai pas choisi d'ailleurs. Mais écoute, apparemment, c'est mon avenir, en tout cas immédiat.
On vous rappelle l'existence du Patreon si vous voulez nous aider à financer ces podcasts. patreon.com/geekzonefr. Vous pouvez venir mettre 1€, 2€, 10€, 100€, ce que vous voulez. Nous, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, il y a du petit contenu de temps en temps, exclusif pour les abonnés. Bon, pas assez à mon goût, mais on va essayer de booster un peu tout ça d'ici l'année prochaine. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir et soutenir Geekzone de manière générale, c'est la meilleure manière de le faire. On se retrouve donc la semaine prochaine, 8h. Salut Kef.
Ciao, ciao.
un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers.
Hey, how's your girl, man?
She left me.
Oh.
Yeah, my mom died too. And my dad got deported. But I got the van.
It's nice.
Yeah, right?